Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
Alors allons-y.
Let's do it.
I have good news for you.
C'est l'heure de la Formule Express.
J'adore ça.
Ah bon?
On fait pas chier.
On essaye? Allez.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 56e Formule Express de retour à l'écran. Moi c'est Max et je vous invite cette fois-ci à repartir au tout début des années 80 pour vous raconter l'histoire d'une comédie hexagonale sans prétention, pourtant devenue culte. Un teen movie à la française qui, malgré une forte évolution des mœurs depuis sa sortie il y a plus de 40 ans, continue de passionner chaque génération qui le découvre grâce à la justesse de ses personnages que l'on peut qualifier d'intemporels. Un film qui révéla également une très jeune actrice devenue par la suite l'une des plus populaires du cinéma français. Je vais bien évidemment vous parler de la Boom de Clopinotto, avec Sophie Marceau, Claude Brasseur, Brigitte Fossé, Denise Gray et Bernard Giraudot. Sorti le 17 décembre 1980, soit une semaine après le second opus des aventures de Superman avec Christopher Reeves, et une semaine également après l'arrivée en salle d'une autre suite, celle de La Cage aux Folles, La Boom a, malgré des débuts difficiles, réussi à conquérir largement le public français. Mais ce n'est rien à côté de l'accueil que lui réserveront nos amis transalpins qui en feront un véritable triomphe. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Avant de vous raconter comment ce film a vu le jour et pour ceux qui seraient passés à côté, La Boom, ça raconte quoi ? Vic, une adolescente de 13 ans, vit chez ses parents dans les beaux quartiers de Paris. Pour la jeune fille, c'est le temps des booms et des premiers émois amoureux qu'elle partage avec son arrière-grand-mère, Poupette. Mais alors que ses parents vivent une période délicate de leur relation, Vic doit également faire face aux défis de son âge, grandir et s'affirmer. Et ce n'est pas toujours simple.
Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a ?
13 ans.
Tout commence à la fin des années 70. Danielle Thompson, fille de Gérard Houry et scénariste des plus grands succès de son père, je vous en parlais déjà dans l'épisode consacré aux corneaux, est déjà à cette époque mère de deux enfants. Un garçon, Christopher, et une fille, Caroline, qui en cette fin de décennie est alors au début de son adolescence, à l'âge des premiers émois amoureux et celui des premières fêtes.
Un jour, je suis rentrée chez moi, un petit peu à l'improviste comme ça, vers 4h30-5h d'après-midi. Et là, j'ai trouvé la maison transformée avec tous les volets fermés, les rideaux fermés, des petites lumières douces, une musique douce. Et puis, il y avait, je ne sais pas, une vingtaine ou une quinzaine de nains, littéralement. Enfin, ils avaient 12 ans et demi, en train de danser joue contre joue. Et j'étais complètement ahurie parce que c'était un phénomène nouveau. Et je me souviens très très bien qu'un soir, j'étais chez moi avec des amis qui étaient venus dîner et je m'ennuyais beaucoup à mon propre dîner. Et tout à coup, j'en ai eu ras-le-bol vers 11h, 11h15, 11h30, minuit, il partait pas, j'en ai eu marre, je me suis levée, j'ai laissé l'homme de ma vie s'en occuper, je suis allée à mon bureau et j'ai écrit 2 pages. Et ça s'appelait La Boom. Et il y avait Vic, et il y avait ses copains, ses copines, et il y avait Mathieu, et il y avait l'idée de cette boum qui était l'obsession de ses enfants, et puis il y avait le couple des parents qui avait de gros problèmes en même temps, et puis il y avait la grand-mère. Et dans ces 2 pages, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Avec ces 2 seules pages, Danielle Thompson contacte alors le producteur de télévision Roland Gritti pour lui proposer de développer cette histoire d'ado et en faire une série. La scénariste, qui avait déjà œuvré avec succès pour le petit écran, elle est en effet à l'origine du feuilleton Petit Déjeuner Compris avec Pierre Mondy, suivi à l'époque par des millions de téléspectateurs, est convaincue que son idée narrant les aventures d'une ado, de sa famille et de ses copains est parfaite pour la télévision. Roland Gritti est emballé et un contrat est signé.
That's a deal.
It's a deal.
That means it's a deal.
Peu de temps après, Danielle Thompson déjeune avec Alain Poiret, l'un des patrons de la Gaumont, qui connaît bien la scénariste. Le studio à la Marguerite a en effet produit les 5 précédents films de son père, Gérard Houry donc, qui ont quasiment tous été des grands succès. Alain Poiret souhaite en effet que la scénariste travaille avec l'un des réalisateurs maison de la Gaumont, Claude Pinoteau, persuadé que ce binôme fera des étincelles. Au cours de l'échange, le producteur insiste pour lire les fameuses deux pages écrites par Thompson, malgré le contrat déjà signé avec Gritty. Et sans surprise, Poiret s'emballe pour cette histoire d'ado, tout de suite convaincu qu'elle a plus sa place sur le grand écran que dans la petite lucarne. En plus, ça tombe bien, Claude Pinoteau aime ce genre d'histoire comme il l'a prouvé quelques années auparavant en réalisant La Gifle avec Isabelle Adjani, l'histoire d'une jeune étudiante qui cherche à s'émanciper de son père.
J'avais envie de faire un film sur cette période de la vie, parce que moi-même, quand j'avais 14 ans, à l'âge de Mathieu, j'étais fou amoureux des filles, mais j'étais romantique, sentimental, je me soigne. Hein. Mais c'était une merveille. Je me souviens quand elle s'appelait Christiane, j'étais fou amoureux d'elle, j'avais 14 ans, elle devait en avoir, je sais pas, 12-13. Bah, quand elle m'a donné la permission de l'emmener sur ma moto, quand je montais les 4 étage, j'avais le cœur qui battait tellement que quand j'arrivais au quatrième étage, il fallait que j'attende que le cœur se calme avant d'oser frapper à la porte. Bon, donc j'étais totalement excessif.
Reste donc à Poiret de persuader la scénariste de rompre son contrat avec Gritty, de signer avec la Gaumont et de travailler avec Claude Pinoteau. Ce qu'il parviendra rapidement à faire en obtenant un budget confortable pour la production du film, notamment grâce à l'apport financier de Marcel Dassault, célèbre PDG du groupe aéronautique, passionné de cinéma. De plus, il trouve un accord financier avec le producteur de télévision qui accepte de lui céder le projet en échange d'une mention de son nom au générique.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Daniel Thompson et Claude Pinoteau vont alors rapidement se mettre au travail. Mais malgré une envie commune d'écrire un scénario le plus réaliste possible, collant plus près des préoccupations des adolescents de cette fin des années 70, la sauce ne prend pas immédiatement entre les deux.
Pourquoi ça ne marche pas ?
Daniel Thompson a en effet toujours eu l'habitude de travailler pour son père, Gérard Houry, malgré deux précédentes infidélités avec Jean-Charles Takela pour Cousin-Cousine et François Le Terrier pour Va voir maman, papa travaille. Claude Pinoteau a lui écrit jusqu'à présent ses films, notamment avec Jean-Loup Dabadie pour Le Silencieux et La Gifle, ou Jean-Claude Carrière pour L'Homme en colère. Trois films avec Lino Ventura en tête d'affiche. Mais finalement, Thompson et Pinoteau vont trouver une méthodologie de travail commune qui va s'avérer très efficace, avec au centre la propre fille de la scénariste, Caroline.
Claude venait travailler chez moi, on travaillait chez moi. Les enfants entraient de l'école donc tous les jours et ils nous servaient de cobayes parce qu'on... Venez. Alors ça les amusait bien sûr. Moi, c'est ce que je faisais aussi quand j'étais enfant et que mon père travaillait avec des scénaristes à la maison.
Vic, c'est Caroline. Elle était vraiment notre modèle. Pendant des mois et des mois, on a travaillé sur le scénario avec Daniel. Quand on prenait un petit goûter dans la cuisine de Daniel le soir et que Caroline rentrait du lycée, on lui posait des questions. Et elle a été vraiment, je dirais pas notre concierge technique, elle avait 12 ans, mais ce qu'elle nous disait était très intéressant. Donc on avait vraiment en première loge un témoin de la vie adolescente de cette époque.
Caroline Thompson va donc livrer tous les détails de sa vie d'adolescente à Claude Pinoteau et à sa mère, des plus surprenants aux plus intimes.
Ce qui est dans le film, alors vraiment, tout ce qui est dans le film est basé sur des choses que j'ai racontées à ma mère. Mais tout, l'histoire des chips quand ils sont en train de regarder, l'histoire de mur où elle planque les trucs dans les toilettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je racontais des choses à ma mère, parce qu'en fait, on est une famille où on se raconte beaucoup les choses depuis plusieurs générations. Au moment où ils ont décidé d'en faire un film, c'est-à-dire que Claude et ma mère ont décidé d'écrire quelque chose, il y avait réellement des séances de travail. Alors au début, c'était de façon assez informelle. Enfin, ça a toujours été de façon informelle, je ne suis pas co-scénariste du film. Mais en même temps, il y avait réellement des jours où ils me disaient « Bon, bah, tu rentres et on a rendez-vous pendant 2 heures. » Et ils me pompaient, si je puis dire. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Et puis c'est elle qui a eu l'idée, après, d'en faire une histoire entre l'arrière-grand-mère et la petite fille, qui est en fait plus son histoire à elle avec son arrière-grand-mère. Donc elle a mélangé un petit peu les deux choses. Et effectivement, Poupette était calquée sur elle, qui était quelqu'un avec une originalité, une liberté de pensée.
Pour Daniel Thompson, La Boum va finalement devenir un film de plus en plus personnel.
Bon, c'est vrai que tout à coup, je sentais que ce film, c'était beaucoup mon sujet, c'était mes enfants, c'était ma grand-mère, ma fille, enfin de très loin, des problèmes de couple, etc. Enfin, c'était finalement une histoire extrêmement personnelle. Et Claude est rentré là-dedans avec une...
avec vraiment une lucidité, une fraîcheur, une gaieté. Je n'ai jamais je me suis sentie, c'est le cas de dire, trahie, comme on demande, jamais. J'ai toujours pensé qu'il l'avait fait exactement comme je l'avais imaginé, comme c'était. Et c'est vrai que bon, il a fait ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il en a fait son film, parce que c'est La Boum, c'est un film de Claude Pinoteau.
Très vite se pose naturellement la question de savoir qui seront ceux qui incarneront tous les personnages de cette comédie adolescente, en commençant bien sûr par celui de Vic. Pour cela, le binôme fait appel à Françoise Ménidret, toute jeune directrice de casting à l'époque.
J'ai vu 3000 ados en 4 mois, quoi, 3 mois, 4 mois. Ouais. Et Sophie, c'était la 42e.
Les stagiaires à la mise en scène, les stagiaires de Françoise Ménidret, il y avait beaucoup de monde qui était chargé de chercher.
Il y avait évidemment un petit panel sur le marché qui faisait de la pub, qui faisait des choses comme ça, mais très peu. Donc là, je suis parti faire...
Les clubs de tennis. On est allé dans les piscines. On a fait les cours de récréation.
C'était génial parce que j'étais dans les cours de collège et j'avais tous ces gamins qui venaient vers moi.
Ça m'est arrivé de faire les sorties de lycée. Bon, on pouvait penser que j'étais... Bon, alors on avait des cartes Gaumont et on sortait quand on voyait une fille. On disait, c'est les mademoiselles de Saint-Maur, excusez-moi.
Je les filmais, puis je prenais leur téléphone et puis je les rappelais après.
Gaumont prépare un film avec des jeunes. Voilà. Ils arrivaient par bus ou ils arrivaient du métro de la Porte de Saint-Cloud et, parce qu'on avait alerté la presse qu'on recevait tous les samedis à Boulogne-Billancourt. Ils se présentaient, je m'appelle un tel, j'étais large, etc., etc. Bon, on devait lui tourner la tête pour voir son profil, etc. Plan pied pour voir sa taille à côté d'un assistant pour voir les rapports.
Il y avait Emmanuel Béard qui avait donc 13 ans à l'époque, 13 ans et demi, qui était absolument ravissante. Il y avait Mathilde Amet, pareil, qui était aussi danseuse à l'opéra.
D'autres jeunes filles, qui deviendront par la suite des actrices de renom, tentent également d'intégrer le casting de La Boum.
Alors, je m'appelle Christiana Reali. Je suis née le 16 mars 1965. Je fais du théâtre depuis 3 ans. Puis en juin dernier, j'ai eu le deuxième prix d'une audition que j'ai passée.
Pas que le premier prix, je dis.
Le premier, oui, mais elle a eu le premier parce qu'elle avait plus d'avenir que moi.
Voilà, donc on a fait le casting au fur et à mesure, tout en cherchant Vic, on faisait le casting du reste de la distribution.
Ce qui est formidable chez Claude, c'est que il n'attend pas qu'on fasse le travail pour lui. Lui aussi, il bouge. Alors, il est allé à l'opéra avec Daniel Thompson.
Et c'est comme ça qu'on a choisi, à l'opéra, la petite Alexandra Gonin, qui fait le rôle de Samantha.
Bonjour, je m'appelle Alexandra Gonin. Je suis à l'opéra depuis un an et demi. Je rentre pour ma deuxième année. J'ai fait du cheval.
D'ailleurs, elle est étonnante parce que maintenant elle est mère de famille, mais on lui mettrait ses petites pictures, on la mettrait en gros plan, elle n'a pas changé, elle est prodigieuse, les gens la reconnaissent dans la rue.
Françoise Ménidret et Claude Pinoteau vont également caster les jeunes. Laurence Guigon, Jean-Philippe Léonard, Laurent Ndiaye, Alain Bégel, Alexandre Sterling et puis celle qui incarnera la meilleure copine de Vic.
Je m'appelle Sheila O'Connor, j'ai 14 ans, je suis née le 4 mai 66, je mesure 1m50. J'adore la danse, j'aime beaucoup le sport et la musique.
Il fallait, comme dans beaucoup de films, il y a généralement l'acteur principal ou l'actrice principale, généralement un confident. Bon, c'est un peu classique chez Shakespeare, ça existe déjà. Il y a toujours un personnage qui aide à voir ce qui se passe dans la tête du personnage principal grâce à son confident.
Sheila O'Connor incarnera donc le rôle de Pénélope, la meilleure amie de Vic. Vic, justement. Si Françoise Ménidret et Claude Pinoteau parviennent à dénicher la petite bande qui entourera l'adolescente, ils peinent à trouver la jeune actrice qui saura donner vie à ce personnage central.
Moi, j'ai une conviction totale, c'est que je sais qu'on trouve toujours. La personne existe, le personnage existe. Maintenant, il faut se donner tous les moyens de le trouver. Je sortais d'une cour de récréation et je me retrouve à l'opéra, comme ça, et il y avait une agence d'un mannequin enfant, je dirais, adolescent, qui s'appelait Vogue, qui n'existe plus, avec qui j'avais travaillé quand je faisais de la publicité. Et ils n'ont pas le droit de faire de le montrage, ils n'ont pas de licence. Toutes les agences de pub, comme ça, ils n'ont pas le droit. Je suis montée les voir et puis je leur ai dit, bon, voilà, je cherche pour un film. Soyez sympa, montrez-moi vos fichiers. Bon, alors, comme ils me connaissaient, ils m'ont sorti leurs fichiers. Et Sophie était venue la veille s'inscrire avec une copine.
Je crois qu'elle était l'avant-dernière, je crois. Voilà, et elle est rentrée, elle a une espèce de chasuble. Elle avait un petit côté très digne, très réservé. Elle ne cherchait pas à faire du charme comme les autres petites filles qui rigolaient.
Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire.
Sophie Maupu, qui par la suite changera de nom à la demande même de Claude Pinoteau, devient rapidement une évidence pour le cinéaste et la scénariste Daniel Thompson.
Elle était très juste, très simple, très juste. Bon, il y avait du travail, c'était pas parfait, mais c'était très juste. Elle ressentait vraiment ce qu'elle disait.
Voilà, il y avait quelque chose de tellement... c'était tellement vie qu'elle était tellement délicieuse, tellement naturelle, tellement mignonne, tellement jolie d'une manière pas facile, tellement... C'était pas justement ces beautés régulières, ce côté petites filles qui sont déjà presque des mannequins. C'était pas ça du tout, c'était une vraie petite fille, quoi.
On avait le mouton à cinq pattes. Alors, en faisant les essais, on disait si jamais on tombe sur un mouton à six pattes, on sait jamais, parce qu'en faisant les essais avec tout le monde, peut-être qu'il y en aurait encore une qui aurait été encore plus extraordinaire. Mais on savait qu'on l'avait.
C'était un jour comme un autre. J'avais décidé pour mes vacances de trouver un job. J'avais été dans des boulangeries, sur des marchés, dans des petits magasins et c'était sans résultat. Et maman, qui se moquait un petit peu de moi, m'a dit un jour, elle m'a dit « Tiens, il y a une agence de mannequins bébés. » C'était dans Télé 7 jours, je me souviens, une petite annonce. Elle me dit « Pourquoi tu vas pas là ?» se moquant de moi. Et je l'ai prise au mot, j'ai dit « Très bien, allons-y toutes les deux. » Et puis comme ça, de fil en aiguille, d'essai en essai, au bout de quelques semaines, ils m'ont dit « Voilà, tu as le rôle. » Bon, très bien, j'étais ravie, j'avais trouvé mon boulot des vacances. J'avais donc 13 ans à l'époque. Et puis voilà, on est parti pendant les vacances de 1980, je crois, à tourner le film.
Ça y est, ça y est! Ça va être génial! Oh, ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson?
T'es fière, tes yeux bleus? J'en étais sûre, super sympa!
Ma chère mignon! Qu'est-ce que t'as? Bah, qu'est-ce qu'il y a?
Oh, j'ai rien à mettre!
Pour jouer le père de Vic, Pinoteau pense tout de suite à Francis Perrin, qu'il a déjà dirigé dans La Gifle. Mais ce dernier refuse. Le réalisateur se tourne alors vers Claude Brasseur.
Claude, c'était moins une évidence. Au départ, c'est vrai qu'on était parti sur Francis Perrin pour le ton que Claude voulait donner au film.
Francis, il avait à l'époque une carrière cinématographique assez modeste. On le trouvait formidable. On trouvait que, justement, il avait ce côté homme-enfant. Enfin, il devait avoir, je sais pas, 35 ans, même pas à l'époque.
Quand on a fini le scénario, on a demandé à Francis de le lire. On lui a donné le scénario. Puis Francis nous a visités, boulevard Malesherbes, il est arrivé, elle a dit alors, il a dit, alors mes enfants, moi je comprends pas ce père du tout, je comprends pas vraiment. Alors, je dis bon, alors, arrête de plaisanter, bon, alors t'as aimé, alors, non, je suis sérieux, non, je suis désolé, j'ai pas envie de tourner ce film. Alors c'est avec Daniel. T'es sincère, oui. Bon, ben écoute, on est dans vrai, mais enfin, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Ben non. Et puis, il est parti. Comme j'avais déjà tourné avec Claude, le grand escogriffe, on se connaissait bien, j'ai appelé Claude, qui a lu le scénario, qui m'a dit, mais je signe tout de suite.
C'est toujours très agréable de tourner avec des jeunes gens, si on peut leur apporter quelque chose, leur apprendre, et puis leur dire, bon, ça va... Tu regardes Vidocq, ça va 5 minutes, après ça va, je travaille avec toi, viens, on va boire un café, et puis toi, prends ton biberon.
C'est Brigitte Fossé qui est choisie quant à elle pour jouer la mère de Vic. Mais cette dernière n'accepte pas tout de suite.
Quand on vous a proposé ce rôle, vous êtes au sommet de votre carrière, vous avez 32 ans et vous dites, dites donc, c'est pas sympa de me faire jouer la mère d'une ado de 13 ans.
Non, je suis trop jeune, trop jeune et j'ai refusé le rôle. Alors, mon professeur de l'Actor Studio, Andreas Voutsinas m'a dit « Mais comment, chérie ?» Il était né à Khartoum, Soudan. Il était grec. « Mais comment, chérie ? Je l'ai parlé à Daniel Thompson, je l'ai parlé à Claude Pinoteau, de vous et de Claude Brasseur. C'est l'idéal. Et vous les dites ? Non, je ne vous les parle plus. Je ne vous les parle plus si vous ne les rappelez pas. » Alors, je l'ai rappelé, j'ai rencontré Pinoteau. Et puis, ça s'est très, très bien passé. Mais il était quand même un peu étonné que j'ai refusé un rôle pareil. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que quand je l'ai rencontré, ça a été merveilleux. Attends, tu sais, Daniel Thompson, c'est son rôle, mon rôle.
Bien sûr.
Je lui suis éternellement reconnaissante d'avoir mis sa vie dans un film pour que je puisse l'interpréter. Et après, ça a été ma vie avec ma fille.
Exactement.
Elle est venue à la première et après elle m'a dit, est-ce que je peux partir en boum ? J'ai dit non, hein. Tu as 11 ans, tu n'as pas 13 ans, toi.
Ah oui.
Denise Gray, grande comédienne de théâtre, est choisie pour jouer l'arrière-grand-mère et confidente de Vic. Un rôle qui la rendra inoubliable.
Ah, on est dans la merde. Provisoirement, mais jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous hein? Bah oui, vous écoutez, elle en tant qu'affaire, donnez-nous une idée.
Hein? J'ai jamais...
T'en as parlé à ta mère?
Bah tu sais, maman, en ce moment...
Faudrait le rendre jaloux.
C'est des trucs de ton époque, ça.
Alors dis-moi, c'est quoi la force de frappe aujourd'hui?
Viennent compléter le casting, Bernard Giraudot dans le rôle du professeur d'allemand de Vic et Dominique Lavanant dans celui de la maîtresse de Claude Brasseur.
On m'avait dit que c'était quelqu'un qui était... C'était une grande séductrice qui devait séduire Brasseur, etc. Donc voilà, c'était un défi qui m'amusait puisque moi je fais ce métier uniquement pour le déguisement. Donc il fallait une nana habillée, en principe sexy, et j'avais trafiqué mon corps avec des espèces de boursouflures là, un truc un peu moulé. Et la costumière me met pratiquement pour le tournage la jupe grise droite en flanelle et... Enfin, je t'habille en guidouille tout d'un coup. Et affolement, le jour du tournage, et je suis reparti chez moi, le jour du tournage, chercher des petits costumes qui étaient un peu plus osés. Je suis retombé sur un truc rouge et noir d'une femme qui travaillait beaucoup avec les prostituées à l'époque. Voilà. C'est pas que j'ai des vêtements prostitués chez moi, mais enfin, il se trouvait que cette femme-là vendait à tout le monde.
Le tournage débute le 16 juillet 1980 au lycée Henri IV au cœur du quartier latin à Paris, dans une ambiance de colonie de vacances.
Et ça les amusait. Ils assistaient à un tournage de film. Là, non seulement ils le voyaient, mais ils participaient. Et ils savaient que ça allait durer 2 mois, toutes les vacances.
Oui, on a coagulé tous, quoi. Même à certains moments, d'ailleurs, on savait plus si c'était le film, la réalité. Je me souviens, les scènes de la boum, il est arrivé une ou deux fois que quelques acteurs, enfants, disent « Est-ce qu'on peut s'arrêter? Là, on aimerait juste finir la soirée ensemble, passer la journée à danser, à s'amuser. » Puis on se disait « Mais non, mais les enfants ont fait un film, là, c'est sérieux. » Mais bon, il y avait des vrais marshmallows, il y avait des vrais bonbons et du jus d'orange, il y avait de la musique, on s'amusait bien, c'était sympathique.
Sheila O'Connor, Laura Ndiaye et Laurence Guigon se souviennent également d'un tournage turbulent.
On avait beaucoup de crises de rire, ça c'est vrai. Rémi Duchemin, l'assistant réalisateur, il en a pris plein la tête, le pauvre. Il a vraiment souffert, je pense. Mais on le détestait.
Absolument, absolument. Bah oui, pourquoi pas. On était là tous ensemble, on se dit bon, c'est vrai que lui, il est... Bah oui, parce qu'il avait, lui aussi, il avait un boulot à faire et c'est vrai qu'on était très... Alors, dans la boum, donc la scène de la boum, il y a forcément, quand on fait du cinéma, on fait une table avec les coca, les morceaux de pizza,
des bonbons, des petits sandwichs, etc. Et on avait le droit de toucher à rien à cause des raccords. Donc, on attendait que l'accessoiriste ait le dos tourné pour shipper des trucs.
Alors là, c'était Rémi devenait fou, quoi, parce qu'on partait, on bouffait les pizzas, on bouffait tout ce qu'il y avait là. Et puis après, la scriptarise disait, mais attends, là, il y a... On comprend pas parce qu'il y avait quatre, j'ai un Polaroid avec quatre bouteilles de coca, là il n'y en a plus que deux, donc là oui, là il devenait fou.
Pinotto parvient tout de même à garder le contrôle de son tournage en instaurant une véritable relation de complicité avec toute la petite bande, comme s'en souvient Sophie Marceau.
Nous on le considérait comme un des nôtres, quoi, c'était pas le grand méchant directeur qui va nous taper sur les doigts, vous voyez, il faisait partie de la bande, du groupe, on l'écoutait parce qu'il avait cette autorité naturelle d'un metteur en scène, mais il savait aussi comment nous faire sentir bien à l'aise, quoi.
Le tournage se poursuit dans divers quartiers de Paris, notamment au célèbre restaurant de la Coupole à Montparnasse, à la non moins célèbre discothèque de la Main Jaune, aujourd'hui disparue, et au cinéma, malheureusement disparu lui aussi, le Paris sur les Champs-Élysées, propriété de Marcel Dassault. C'est dans ce cinéma que se tourne l'une des scènes les plus célèbres du film.
Il introduit son sexe dans une boîte de chips.
C'est une scène qui m'avait un petit peu gêné. C'est une scène, c'est une bonne idée de Daniel. Bon, moi, je suis un petit peu pudique, bêtement, par mon éducation. Et ça, je me suis dit, on va la tourner, mais je n'étais pas certain que je la laisserais dans le film.
Les prises de vue de La Boum s'achèvent le 20 septembre 1980 et c'est la monteuse Marie-Joseph Yoyot, qui a notamment travaillé avec Yves Robert, Jean-Paul Rapneau, Jean-Jacques Benex ou Alain Corneau, qui est chargée de mettre en forme le film.
Un bon monteur, une bonne monteuse, doit mettre le réalisateur en confiance, il doit de toute façon le rassurer, parce qu'un réalisateur qui vient de terminer un film est une personne fatiguée, inquiète, déçue par certaines choses, parce qu'il avait dans sa tête un chef-d'œuvre et il a des déceptions, des petites déceptions à tous les degrés, qu'il n'a même pas le temps de formuler. Et il s'attend au pire quand il voit le premier montage. Il y a très très peu de films où on regrette les coupes qu'on a faites. On peut les regretter en soi, parce qu'on peut dire la scène était formidable, mais en plus, regarder la scène après, dire ben oui, non, elle n'avait pas sa place dans le film. Dans La Boum 1, tiens, justement, on a coupé un comédien débutant, que tout le monde trouvait formidable, et qui était le copain, quand Claude Brasseur arrive pour emménager près de la place du Panthéon, qu'il arrive avec sa camionnette, il y a un copain qui l'aide à descendre quelque chose. Et puis il y avait une scène où il montait l'escalier, où il avait deux, trois répliques. En fait, ce rôle avait été un petit peu alourdi parce que le comédien était formidable, c'était Richard Boringer. Mais finalement, ça a été coupé parce que ce copain qui aidait, qui bavardait, ça n'avait pas sa place, si vous voulez. Et je me souviens qu'à l'époque, le pauvre Richard était le comédien le plus coupé de... Parce que tout le monde le trouvait formidable. Et comme les metteurs en scène avaient envie de le faire tourner, mais qu'il n'y avait pas de rôle pour lui, vraiment de rôle, on lui rajoutait 4-5 répliques. Et qu'est-ce qui tombe au montage? Ce sont les 4-5 répliques rajoutées presque pour faire plaisir.
Pour composer la musique du film, le producteur Alain Poiré engage dans un premier temps Michel Polnareff, qui avait déjà signé la bande originale d'un long métrage signé Gaumont et Gérard Houry, La Folie des Grandeurs. Mais le chanteur, exilé aux États-Unis, n'y met vraiment pas du sien et propose des musiques qui ne collent pas du tout au film. Exit Polnareff, Pinotto appelle Vladimir Cosma, spécialiste de la comédie française des années 70 et 80, à la rescousse.
Pour moi, ça a été un problème ce film, puisque j'étais pas dans la lignée des compositeurs qui font des musiques de danse. J'ai jamais de ma vie été dans une boîte de nuit, je connaissais pas du tout les groupes, tout ça, ce qui se faisait en la matière. Ça m'intéressait pas particulièrement. Et donc, quand on m'a donné la commande de ce film, en fait, je me trouvais à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la mer, en train d'écrire la musique de l'inspecteur La Bavure et du coup du Parapluie. En même temps, et là, il y a un coup de téléphone de la Gaumont, qui m'envoie le scénario, qui me demande de faire un thème dans une semaine parce qu'il y a besoin pour le film, pour le tournage et tout ça. Bon. J'étais pas du tout préparé à ça, je voulais pas tellement le faire. Ouais, j'ai lu le scénario, mais c'était un film avec des jeunes qu'on connaissait pas. Ça promettait pas d'être un grand film et tout ça. Et donc, dans un premier temps, j'ai refusé. Alors là, j'ai eu un coup de téléphone de monsieur Alain Poiré, qui était directeur à la Gaumont, patron, très furieux, enfin, un peu énervé, en me disant, écoutez, monsieur Cosma, vous n'êtes pas là qu'à faire les grands films que nous produisons. Pour une fois qu'on a besoin de vous, de faire la musique d'un petit film, et on a besoin d'urgence, il faut le faire, etc. Bon. Donc il y avait plus de discussion, ouais, c'était un ordre, quoi. Donc je me suis mis à mon piano violoncelle, que je me suis mis à composer une musique sans penser à ces problèmes de boîte de nuit, à la mode, à tout ce qui se fait, au groupe que je ne connaissais pas du tout. J'ai écrit un thème qui me semblait me correspondre, et un thème romantique, et en pensant que je vais l'aménager, je vais faire l'arrangement dans un deuxième temps, si le thème plaît. Donc j'ai enregistré ce thème sur le piano électrique, je l'ai envoyé, et ça a beaucoup plu à tout le monde, et ça a servi de playback pour les jeunes qui dansent dans les booms, et voilà comment cette aventure extraordinaire qui est La Boum, qui est restée d'ailleurs, un film qui est qui a traversé les décennies et qui n'a pas été remplacé dans le cœur des jeunes et des gens par un autre film. C'est toujours une sorte de référence qui fait qu'à mes concerts, je me retrouve souvent avec la grand-mère, la mère, l'enfant et le petit-enfant, et ils ont tous aimé La Boum. Et voilà, c'est devenu quelque chose de spécial.
Et pourtant, c'était pas gagné. La Boum sort en effet le 17 décembre 1980, et le film n'attire pas vraiment les foules le premier jour, comme s'en souviennent Claude Brasseur et Daniel Thompson.
Le premier jour a été une catastrophe. Le premier jour, ça a été une catastrophe.
Le jour de la sortie du film, eh ben, il n'y avait personne. Je me souviens vraiment bien de ce dîner d'une morosité terrible.
Oh, ça, je m'en souviens. Je me souviens des têtes catastrophées de tout le monde. Oh, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. À deux heures, j'ai plus quelque chose comme 2000 entrées le premier jour.
Il pleuvait beaucoup, et il y avait des gros embouteillages dans Paris. Alors on se disait, il pleut, il y a des embouteillages. Mais enfin, quand même, bon, s'il n'y avait pas d'embouteillage, on aurait peut-être fait 1000 entrées de plus, mais ça nous aurait mis à 3000 et quelques. Donc, on n'avait pas trop d'illusions. On était vraiment tristes. Et un copain producteur, quand je suis arrivé, il m'a dit, oh, t'inquiète pas. Là. Et il m'a donné un fond qu'il a mis dans ma main. Parce que franchement, on vendait pas cher notre peau. Et puis je me souviens très très bien que le lendemain, le jeudi soir, René Bonnel, qui s'occupait de la distribution de La Gaumont, m'a téléphoné en me disant « C'est très très curieux, on a fait 300 entrées de plus, 400 entrées de plus le jeudi. » Ce qui est très rare, parce que le jeudi, il y a toujours une descente. Je dis « Bon, c'est gentil de m'appeler, mais enfin, franchement, 300, 400 entrées de plus. » Et puis je sais plus très bien les chiffres, mais je crois qu'on a fait 6000 le vendredi, 15 000 le samedi, 20 000 le dimanche. C'est monté en flèche.
Boum, 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 boum.
Jusqu'à 4 millions et quelques.
Malgré ce démarrage plus que poussif, La Boum finira tout de même par cumuler près de 4 400 000 entrées. Un gros succès qui n'est rien à comparer à celui que le film va connaître un an plus tard en Italie et au Japon.
C'est vrai que La Boum a eu plus de succès encore en Italie qu'en France. En Italie, ça a été dément. Nous sommes allés avec Sophie, il y a eu 25 blessés à Naples, il y a eu un blessé à Rome. Quand on est allé voir l'hôpital après, il se piétinait. À Osaka, on est allé en train dans la gare de Osaka, on a des hurlements, j'ai cru qu'il y avait une émeute. Ben oui, c'était le fan club de Sophie Marceau. C'était étonnant. Ils entendent des hurlements. Ça hurlait. En fait, c'était S-O-P-H-I-E. Sophie, S-O-P.
J'ai beaucoup de souvenirs d'abord que c'était beaucoup de travail parce qu'on travaillait comme des fous de 7h du matin à 9h du soir, non-stop. Des interviews, des télés, des photos, des interviews, des radios, prendre la voiture, partir, continuer jusqu'à que j'avais la main. Allez, on s'y filme ensemble. C'était un peu. Je savais plus là.
Souvent, on me téléphonait pour faire une couverture d'un magazine, telle chose, etc., etc. Et c'est moi qui recevais les coups de téléphone ici. Donc, je parlais à ses parents, je parlais à Sophie, et je l'accompagnais partout. Donc, j'étais un petit peu... je l'aidais, si vous voulez, auprès des journalistes, auprès des propositions qu'on lui faisait, je l'aidais.
J'ai vécu mes 4 premières années de cinéma avec Claude, quoi, en permanence. On a commencé à voyager, on a commencé à faire la promotion du film partout en Asie, on prenait l'avion ensemble. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec lui. La première fois que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, c'était avec lui. J'ai vraiment appris à faire des journées de promotion entières dans des pays étrangers, à devoir apprendre d'autres langues pour pouvoir m'exprimer autrement qu'en français, enfin... Et on a fait ce parcours, ce bout de chemin ensemble pendant 4 ans. On s'est pas quitté quasiment, quoi.
Quatre ans, car le triomphe mondial de La Boum ne pouvait pas rester sans suite. En effet, moins d'un an après sa sortie, le duo Daniel Thompson-Claude Pinoteau reforme toute la petite bande pour donner une suite aux aventures de Vic.
Claude Pinoteau nous a réunis à sa maison de campagne pour fêter les 85 ans de Denise Gray. Donc ça, c'était un très bon souvenir. C'est là, d'ailleurs, où on a appris, c'est ce jour-là qu'on a appris qu'il y aurait La Boum 2.
J'ai une bonne nouvelle, Léon. On fait la deuxième partie de La Boum. Ah, putain, qu'est-ce qu'il m'avait pas dit, là?
Il voulait absolument garder la même équipe. Il voulait que tous les jeunes soient là pour La Boum numéro 2, pour que vraiment on suive d'un film à l'autre tous ces jeunes qui entouraient Sophie Marceau.
Le casting de cette suite sera également enrichi par les présences de Zabou Breitman, Philippe Kelly, Pierre Cosso et Lambert Wilson.
J'avais l'impression quand même d'être un intrus. Et je sentais que j'entrais dans une communauté qui se connaissait très 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 bien. Il y avait quelque chose de... c'est toujours particulier quand on débarque sur un plateau, de sentir que les gens ont leurs habitudes déjà, quoi. Surtout quand vous-même, vous êtes un peu un intrus. Tout ce petit monde me paraissait tout à fait détendu, surtout. Et puis j'avais entendu parler de Sophie aussi. Ben oui, parce qu'en fait, c'était, je savais que c'était un phénomène quand même. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du petit miracle qu'on a envie de, qui intrigue tout le monde, qu'on a envie de rencontrer.
Si le tournage se passe toujours dans une bonne ambiance, certains jeunes gens présents sur le premier film se sentent un peu délaissés cette fois-ci par Claude Pinotto, comme s'en souvient Laurent Ndiaye.
Et c'est là que je crois qu'il n'a pas assuré, parce que le concept au niveau de la manière dont on l'a exposé, c'est-à-dire qu'on allait vraiment faire la prolongation de La Boum, alors que finalement, je crois que c'était plus un film sur Sophie Marceau, avec les autres un petit peu derrière, comme ça, pour en faire valoir. Là, j'ai vraiment eu l'impression, sur le tournage de La Boum 2, d'être un faire valoir.
Le public finit tout de même par se déplacer de nouveau en masse dans les salles pour suivre la suite des aventures de Vic. Sorti le 8 décembre 1982, soit presque 2 ans jour pour jour après le premier opus, La Boum 2 cumule une nouvelle fois plus de 4 millions d'entrées. Porté également par l'histoire d'amour qu'ont réellement vécu sur le tournage, Sophie Marceau et Pierre Cosso. Six ans plus tard, La Gaumont, désireuse de renouer avec le succès de La Boum, réunit le trio Daniel Thompson, Claude Pinotto et Sophie Marceau pour le tournage de L'Étudiante. Après le collège et le lycée, il est en effet logique de retrouver Vic sur les bancs de la fac. Et pourtant, il n'en est rien. Si Thompson et Pinotto reprennent ici la recette à succès des deux Boum et que les similitudes sont troublantes, il signe ici un film qui raconte l'histoire d'une autre jeune femme, celle de Valentine, sorte de clone presque adulte de Vic. Cela n'empêchera pas certains distributeurs d'autres pays de le vendre opportunément, comme La Boum 3. Alors que reste-t-il de La Boum aujourd'hui, plus de 40 ans après sa sortie ? Comme je le disais en préambule, malgré l'évolution significative des mœurs depuis le début des années 80, La Boum reste encore et toujours un film plébiscité par toutes les générations qui se sont succédées depuis. En effet, si le téléphone fixe a été remplacé par le portable, les médias traditionnels par les médias sociaux avec l'arrivée d'Internet, si la société a évolué dans son rapport à l'autre, à la culture, à la politique, à l'environnement, les aspirations des adolescents et les problèmes des adultes sont restés sensiblement les mêmes. Quête de l'amour, de la liberté et de l'indépendance pour les uns, la gestion du quotidien et la lutte contre la routine pour les autres. Sur ces points, rien n'a vraiment changé en 40 ans.
Putain, me regardez comme ça.
Qu'est-ce que je porte ?
Comment ça, qu'est-ce que tu portes ?
Oui, enfin, comment je suis habillée ?
Enfin, écoute, François, chemisier beige et puis...
Et puis quoi ? Là, en dessous, sous la table. Je porte un pantalon, des bottes, une jupe fendue.
Des talons, des bas noirs.
Ah, je monte pas avec, je demande à toi.
Non, mademoiselle.
Bah...
Tu es venu nous chercher. Nous avons pris l'ascenseur. Nous sommes montés dans la voiture, descendus de la voiture, entrés dans le restaurant. Tu n'as pas regardé mes jambes une fois.
Mais parce que je les connais, tes jambes. Elles sont ravissantes.
Oui, mais tu ne la regardes plus. Tu ne me regardes plus.
D'abord, c'est pas vrai, je te regarde. Mais si, je te trouve très belle. Mais effectivement, ce soir, si j'ai pas regardé tes jambes, c'est parce que j'avais la tête ailleurs.
Ce qui fait également que La Boum fonctionne toujours aujourd'hui, ce sont ces portraits peints avec justesse et authenticité par Daniel Thompson et Claude Pinotto, de ces personnages qui ressemblent à beaucoup de gens que nous avons connus, mais surtout qui nous ressemblent. Et ce n'est pas parce que le duo nous montre ici des gens issus de la petite bourgeoisie parisienne que nous ne pouvons pas nous retrouver, chacun d'entre nous, en Vic, ses copains, ses parents. Certes, dans sa forme, le film de Claude Pinotto a pris un sacré coup de vieux, mais pour ce qu'il nous raconte, il reste et restera intemporel. La Boum n'est pas simplement le film d'une génération, mais de toutes les générations. Voilà, c'était Max pour cet épisode consacré à La Boum. Tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis qu'au cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre !
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.